Alors tout d'abord, le rôle des prêtres. Alors on va en nommer plusieurs. On va voir en quoi les prêtres bâtissent des autels. C'est une constante, ils bâtissent des autels. Le rôle d'enseignement pour les prêtres. Le rôle d'offrir des sacrifices pour le peuple et pour eux-mêmes. Le rôle de veiller sur la lumière, la ménorah, le chandelier, le feu sacré. Le rôle de bénédiction, le fait d'être un homme du sanctuaire, de veiller aux purifications, d'être un oracle, quelqu'un qu'on vient consulter pour donner des réponses de la part de Dieu, d'être juge, de juger d'un certain nombre de choses très concrètes finalement, comme le font les juges de la société civile, et d'être gardien de l'arche, l'arche d'alliance, que vous savez avec les chérubins. Alors tout d'abord les autels. Alors on trouve ce rôle-là qui est assez surprenant, puisqu'on voit les patriarches qui de temps en temps s'arrêtent, et puis bâtissent un autel. Alors on a l'impression qu'ils soulèvent un menhir, vous voyez, qu'ils le mettent vertical, ou enfin qu'ils font en sorte de mettre une pierre sur laquelle ils vont officier, et ils le font à des moments clés, et c'est assez surprenant, et on se demande, alors mais qu'est-ce que c'est que ces autels-là? Donc on va le regarder, j'ai imprimé une feuille. Mais les consignes données sur les autels, c'est dans Exode chapitre 20, verset 24. Exode 20, 24. Il est dit, en fait, l'autel doit être fait en pierre non taillée. C'est-à-dire que le ciseau manuel en fer ne doit pas passer dessus. On doit laisser la pureté de la pierre que le Seigneur a créée et la prendre telle qu'elle.
Excusez-moi, vous avez parlé de bâtir l'autel et pas de baptiser l'autel.
Oui, bâtir. Construire, ériger un autel. Et on dit ériger parce qu'effectivement, souvent, c'est plutôt agencer les pierres plutôt que de créer les pierres qui préexistaient, évidemment. Et il est demandé, en fait, c'est la consigne de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire de quelque chose de reçu de Dieu. Ça peut être aussi en terre. Et donc, la tradition juive, je me suis penché sur pourquoi ne pas faire passer le ciseau. Et c'est parce que c'est une manière de faire rentrer des choses humaines dans l'autel. C'est comme si, en fait, on voulait offrir des sacrifices d'une manière personnelle, en disant « je vais faire à ma manière », etc. Alors que l'autel, il incarne déjà le lieu par excellence où on fait exactement ce que le Seigneur demande, c'est-à-dire on applique les lois selon lesquelles le sacrifice est pur. Voilà, le mot peut choquer, mais c'est ça qui est employé dans l'Ancien Testament. Et donc c'est pour ça, la terre, en fait, elle est sainte. C'est une créature de Dieu qui a un esprit. Hein, il y a un certain nombre de personnes qui reconnaissent cet esprit-là dans d'autres religions. Nous, les chrétiens, on ne se centre pas trop dessus parce que il s'agit d'esprits inférieurs. Dans la Bible, on en parle des esprits de la nature. Et il n'est pas dit, ça n'existe pas, il est plutôt dit, ne vous prosternez pas devant les esprits de la nature. C'est-à-dire devant des esprits inférieurs qui sont là pour régir les animaux, la terre, les plantes et faire en sorte qu'il y ait que l'harmonie de la nature soit... bien plus grande que si c'était des plantes complètement inanimées, le terme est un peu fort, mais en fait, autant nous, on a des anges qui nous aident et on se demande régulièrement comment on fait pour ne pas se cogner plus, pour ne pas avoir plus de malheurs qui nous arrivent, mais on a notre ange et les plantes et la nature ont aussi des esprits qui ne sont pas des anges, mais qui sont des esprits inférieurs, qui veillent sur eux, voilà, c'est ce qui est enseigné dans la Bible. Et la terre, dans la Bible, a une pureté parce que c'est une vraie créature. Et cette créature-là, finalement, quand on fait un autel en terre, eh bien, on établit un lieu qui est en connexion parfaite avec l'harmonie de la nature, parce que la terre, c'est la nature. Et la pierre, c'est aussi la nature à partir du moment où l'homme n'intervient pas avec son ciseau. Voilà. Donc, comment faire le sacrifice? Il est dit toujours deux choses, esprit d'action de grâce et esprit d'expiation. Action de grâce, c'est merci Seigneur. Et expiation, c'est pardon Seigneur. Et on le trouve un peu partout, on le trouve dans Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, dans un esprit de grâce et de supplication. Vous savez, quand Zacharie, il voit déjà une croix, et il le dit à la fin du chapitre 12, et on le voit quand Jésus, il leva les yeux, et il rendit grâce, et vous savez, avant les multiplications, et il montre l'attitude juste d'un prêtre au moment de consacrer le pain et le vin, c'est vraiment « Seigneur, merci de Dieu du ciel ». Et aussi, on est tellement petit qu'on se laisse faire par toi, on se laisse habiter par toi, grâce et supplication. Voilà, c'est la base de tout sacrifice parfait, finalement, la grâce et la supplication. Alors, à quel moment les autels? C'est toujours dans des moments importants. Noé sort de l'arche, il commence par bâtir un autel. Abraham arrive dans un nouveau lieu, il achète un champ, etc. Il commence par bâtir un autel. C'est dans les moments importants de sa vie. Il y a une victoire importante de Moïse qui lève les deux bras, vous savez, on lui soutient les bras et il y a l'armée ennemie qui est défaite. Juste à la fin de la guerre, il commence par bâtir un autel. J'ai mis des lignes et chaque ligne correspond à un passage biblique qui veut dire il y a eu un autel bâti à ce moment-là. Et j'ai donné la référence et j'ai résumé la situation. Ce n'est pas des citations exactes, c'est plutôt un résumé pour qu'on on rentre plus vite dedans. Dans la deuxième colonne, j'ai trouvé des éléments d'interprétation pour rentrer plus profondément dans le texte. Et dans la troisième colonne, j'ai proposé une interprétation pour de se dire, après tout, qu'est-ce que ça représente pour nous? Comment on peut en tirer des choses pour nous? Alors le premier exemple, c'est Noé. Le Seigneur lui a demandé de sortir de l'arche. Il lui a demandé de faire sortir les animaux, et il a dit « il faut que ces animaux soient féconds et prolifiques ». Voilà. Alors, en élément d'interprétation, j'ai trouvé dans un Targum, le Targum de Jonathan, qui est un écrit juif, qui glose, qui va donner un certain nombre d'interprétations. « C'était là l'autel qu'avait bâti Adam, au temps où il fut chassé du jardin d'Éden, et sur lequel il avait offert une oblation, et sur lequel Caïn et Abel avaient offert leurs oblations. Mais ils avaient été détruits, lorsque descendirent les eaux du déluge. Noé le reconstruisit donc, et il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et offrit 4 holocaustes sur cet autel. » Donc on voit qu'il y a une continuité, c'est-à-dire que Dieu va accompagner les êtres humains en disant « il y a eu des péchés commis à telle génération, et donc votre moyen de pouvoir rentrer en communication avec moi et d'offrir quelque chose » qui m'agrée complètement et est détruit, c'est l'autel qui est détruit aussi par le péché. Et puis après, il donne l'occasion de reconstruire au même lieu pour bénéficier des grâces des ancêtres qui ont fait aussi des bonnes choses, et puis réparer ce qui a été fait de mal. C'est la grâce et la supplication. Voilà, merci Seigneur pour les grâces que tu donnes à nos familles, pour nos ancêtres, et pardon Seigneur pour nos péchés, parce que voilà, on n'est pas parfait. Donc cet autel-là, qui est à un endroit où il y a des réparations. Le sens pour moi, c'est vraiment la réparation qui prime ici, c'est-à-dire c'est un élément d'humilité, cet autel-là. Parce que c'est humiliant de se dire je vais reconstruire quelque chose sur lequel on a tous échoué finalement, et moi-même c'est peut-être un défaut que j'ai dans ma vie de m'enorgueillir. Voilà. Et Noé a eu cette présence d'esprit-là de dire je vais consacrer telle chose. Et donc pour nous, un autel d'humilité, ça peut être par exemple, je vais faire un vœu de manger un peu moins de dessert, voilà. Ça, c'est bâtir un autel, de prendre une résolution devant le Seigneur en disant, tel élément me fait chuter, on est tous des gros gourmands dans la famille, je fais un vœu envers toi Seigneur, ou je ne prends plus de sucre avec mon café. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose d'une simplicité déconcertante, qui va déconcerter aussi le démon qui va nous attaquer, parce que c'est tellement petit que personne ne le voit, il n'y a que nous qui le voyons, et le Seigneur qui finalement va être touché par ces petites attentions qu'on lui offre, dans un lieu qui pose difficulté, parce que c'est un défaut qu'on a, ou un défaut familial. Une interprétation qu'on peut donner, et surtout après un sacrement de réconciliation, parce que là on a le déluge qui est passé, et le Seigneur, il y a une création nouvelle, c'est-à-dire qu'il dit à Noé, vous allez repeupler le monde, et vous allez tout reconstruire, quoi. Et c'est comme si on avait été pardonné, en fait, on avait tout lavé, et on avait tous les animaux en notre possession, et on avait cette capacité de, comme le fils prodigue, de retrouver la robe nuptiale et d'être encore plus beau qu'avant, d'être encore plus fort qu'avant, parce qu'on avait renoué avec le Seigneur. Voilà, l'autel de l'humilité. Deuxième autel, un peu plus loin dans la Genèse. Abraham à Sichem, suite à l'apparition du Seigneur qui a promis de donner Canaan à sa descendance. Il dit, le Seigneur lui apparaît et il dit, voilà, je vais te donner un pays, mais plus précisément, je le donnerai aux générations après toi, issues de toi. Donc, Sichem, ça veut dire épaule. Et épaule, dans la Bible, et même pour nous, ça veut dire porter, ça veut dire responsabilité. Donc, le Seigneur a donné une responsabilité à Abraham, c'est d'être le patriarche d'un peuple qui va être en possession d'un pays avec un projet de Dieu pour le monde. Et ce pays, symboliquement, peut-être, ça peut être l'évangélisation des autres nations, d'être le sel de la terre. Voilà, c'est un pays, c'est finalement un accomplissement quand Dieu donne quelque chose de grand pour qu'on en fasse quelque chose. Et alors, quand on cherche dans la Bible, la ville de Sichem, c'est un lieu où Jacob, un de ses descendants, y enterre des idoles étrangères. C'est-à-dire qu'il va faire une razzia de toutes les mauvaises idoles et enterrer à Sichem ces choses-là, voilà, qui étaient des mauvaises habitudes. Finalement, il va les enterrer là. Josué, un des descendants d'après, renouvelle l'alliance de la nation avec Dieu. Et à Sichem, ça devient un centre du culte cananéen qui est détruit par Abimélec, le fils de Gédéon. Parce qu'il y avait tellement des mauvais cultes qui étaient rendus que leurs descendants ont rasé ce lieu. Et c'est le lieu aussi où Jéroboam, un des deux fils de Salomon, fait un schisme politique et religieux et instaure une nouvelle religion en disant « je vais asseoir mon pouvoir en inventant d'autres sacrifices pour que on se coupe du royaume du sud qui est à Jérusalem et puis que nous on soit indépendants et que ce soit moi le roi qui décide des sacrifices ». Donc le péché suprême de faire un schisme. Et effectivement, ça devient la ville principale des Samaritains et qui érige un temple sur le mont Garizim. Et effectivement, on a les descendants. Alors c'est dans le livre des Maccabées qu'il y a Jean Hyrcan qui détruit le temple en 128 avant Jésus-Christ. Les Romains la reconstruisent sous le nom de Flavian et Napolis. Donc, vous voyez, c'est un peu le lieu à risque. Un lieu, j'ai noté, où notre liberté peut donner le meilleur et le pire. On va dire c'est un haut lieu. C'est un lieu où on a une capacité de faire les meilleures choses, parce que c'est une montagne. Et on imagine que si on érige un sanctuaire en haut de la montagne, si c'est une église ou un temple, ça va être à la gloire de Dieu, tout le monde va le voir et va avoir envie de prier. Et si c'est à la gloire de d'autres divinités, ça va être finalement un lieu qui va faire tomber beaucoup de monde. Sichem, c'est ça. Donc on peut y voir peut-être les zones dans notre vie, les lieux de plus haute spiritualité peut-être. Ça peut être par exemple le centre de notre âme, ça peut être notre temps libre, et le lieu où il peut y avoir les choses les plus incroyables. Ça peut être par exemple les heures de nuit où on a une capacité forte. Ceux qui font des sortilèges ou autres, ils le font la nuit la plupart du temps parce qu'on a beaucoup plus de force. Et la prière de nuit a une puissance particulière, vous voyez. Moi, tous les gens un peu barrés, un peu mystiques que je connais, ils me disent tous, c'est la nuit qu'on obtient le plus de résultats avec la prière. Évidemment, on peut prier tout le temps, etc. Mais le fait de se lever la nuit, il y a une force particulière qui touche particulièrement le cœur du Seigneur. Voilà. Voilà, par exemple, un Sichem, c'est-à-dire un lieu où un temple possible, c'est... je sais pas, mais les créneaux de ma journée où je suis capable du meilleur comme du pire, par exemple, eh ben je vais donner au Seigneur un petit temps tous les jours de quelques minutes pour le Seigneur. Voilà. Moi, j'ai été beaucoup touché par un adorateur qui m'a dit « Moi, je me suis inscrit à l'adoration tel soir dans la semaine, parce que c'est le soir des sorties. » Et du coup, je fais une croix quasiment toutes les semaines sur la sortie avec tous mes copains qui vont au bar boire toute la soirée, quoi. Et c'est un Sichem, ça, c'est-à-dire que faire ça, c'est bâtir un autel, c'est-à-dire poser une pierre qui va devenir sacrée dans notre vie et qui va entraîner beaucoup de bonnes choses dans notre vie, en fait. C'est ça, l'autel. C'est pour ça que cet autel, de prendre une heure régulière d'adoration, c'est un exemple, mais de s'engager dans certaines choses qui vont structurer notre vie de manière saine, c'est bâtir des autels, en fait. Voilà. Et Sichem, à mon avis, ça ressemble à ça. Et au niveau des responsabilités aussi, j'ai une responsabilité dans mon entreprise, je suis dirigeant d'entreprise, je vais mettre une icône dans mon bureau, c'est une forme d'autel, parce que je vais déclarer que mon entreprise est une entreprise où je souhaite qu'il y ait certaines valeurs, je souhaite qu'on puisse reconnaître la liberté de religieuse, c'est une forme d'autel, en fait, je suis capable de, avec ma responsabilité, de transformer certaines de mes décisions pour être un signe pour ceux de mon entreprise, quoi.